C'est vrai que, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous lancer dans un projet et vous êtes tout chaud, tout bouillant dans ce projet, vous êtes en train de foncer, vous faites vos choses, etc. Et puis ça avance, ça avance, ça avance, et puis petit à petit, on se fatigue un peu, et puis on ralentit, puis on a l'impression qu'on n'avance plus et que on se dit, mais est-ce qu'on va jamais terminer ce projet? Hein, moi, quand je regarde ma maison, c'est toujours ça qui me vient à l'esprit, hein, parce qu'il y a toujours des choses à faire et à refaire, etc. Mais bon. Mais je dis ça, c'est aussi bon par rapport. Ben voilà, ça fait un petit moment qu'on s'est lancé dans cette étude de l'Église, hein, de la doctrine, de l'ecclésiologie, et on a vu tellement, tellement, tellement de choses depuis le début. Et c'est vrai que j'ai du mal un peu à avancer, à continuer. Non pas qu'il n'y ait pas de matériel ou de choses à dire, justement, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est le fait de pouvoir un peu trier dans tout cela et puis de s'attacher à ce qui est vraiment essentiel. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, mon intention, ça va être justement de moins une fois par mois d'aborder ce sujet de l'Église. Et je sais que notre frère Philippe, c'est ce que j'apprécie, c'est que on a cette alternance qui nous permet d'aborder des sujets très différents, hein, autant de ce qui est doctrinal, de ce qui est vie chrétienne. Et j'apprécie cela énormément. Mais voilà, au moins une fois par mois aborder ce sujet de l'ecclésiologie, et puis les autres fois où j'ai l'occasion de prêcher, d'aborder d'autres passages des Écritures. Mais c'est vrai qu'on a vu tellement de choses déjà sur l'Église, et la dernière fois, on était en train de voir, eh bien, que Dieu, il a donné à l'Église, à ses enfants, bien des dons spirituels par le biais du Saint-Esprit pour accomplir les bonnes œuvres, accomplir les projets de l'Église et les missions de l'Église. Mais on a dû aborder cette question par rapport aux dons spirituels parce qu'on sait que, eh bien, dans notre monde aujourd'hui, il y a deux points de vue très différents, hein, sur les dons spirituels, notamment ceux que on considère comme étant des dons à caractère miraculeux. C'est vraiment extraordinaire. Hein, et donc on a parlé, hein, de la prophétie, on a parlé du parler en langue, etc. Et c'est justement ce qu'on est en train de voir là-dessus. C'est parce que, voilà, il y a des églises qui croient en la continuité, hein, de ces dons miraculeux et d'autres qui croient que ces dons ont cessé. Alors, je l'avais déjà dit à ce moment-là que notre église ici, nous sommes de ceux qui croyons que ces dons miraculeux ont cessé. Ils ont eu un but qui était lié, hein, à l'église du premier siècle, à l'avancement de l'évangile, à l'établissement des églises, hein, jusqu'à ce que la parole de Dieu, hein, soit complétée, que nous ayons en notre possession, eh bien, tout ce dont on a besoin de savoir pour l'église, pour la vie chrétienne, etc. On avait commencé donc à voir les différents arguments qui montrent pourquoi nous avons ce point de vue-là. On a vu les arguments, hein, issus de la parole de Dieu, hein, qui montrent que ben il y a un moment où ces dons, c'est programmé, c'est prévu que ces dons devaient cesser. Hein, et que même en analysant, hein, le passage de 1 Corinthiens 13, par exemple, on a vu que même ces dons devaient cesser même d'eux-mêmes. Donc voilà. Mais on voulait continuer donc sur cette lancée-là, hein, de voir ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est important pour nous déjà d'avoir une bonne position doctrinale. C'est important pour nous d'avoir des convictions. C'est important pour nous, hein, de veiller et de discerner. Alors, je vous rappelle ce passage de la première épître de Jean au chapitre 4, où l'apôtre nous dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'était une réalité à l'époque où l'apôtre écrivait ces choses, ça a été une réalité à travers les siècles, et c'est une réalité encore aujourd'hui, où il y a des personnes qui enseignent des fausses doctrines, dont l'objectif est, bah, de détourner les chrétiens quelque part de la vérité, mais aussi de les détourner dans leur activité, dans ce qu'ils sont supposés être en train de faire. Et donc c'est important pour nous, hein, de regarder à ces choses-là et de bien les comprendre et d'être encouragés, hein, à vivre pleinement pour le Seigneur. Donc le deuxième argument que nous voulons voir à ce sujet, c'est que, voilà, oui, à travers l'histoire, on a beaucoup d'éléments qui nous montrent que les dons, eh bien, ont bien cessé. J'aime beaucoup ce passage de Deutéronome. Deutéronome 32,7 qui dit « Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. » On sait l'importance que revêt l'histoire, n'est-ce pas? Tout historien vous dira qu'il est essentiel de connaître son histoire déjà ben, afin de ne pas répéter les erreurs qui ont été commises dans le passé, d'apprendre, de tirer les leçons hein, des différents événements historiques pour notre vie actuelle et pour construire également l'avenir. Donc c'est quelque chose vraiment d'extrêmement sage que d'étudier l'histoire et d'apprendre ce que l'histoire nous enseigne. Et quand on étudie justement l'histoire déjà de la période biblique, hein, quand on regarde à la parole de Dieu, on va constater que en ce qui concerne vraiment tout ce qui est d'ordre du miraculeux, de vraiment extraordinaire, il y a eu trois grandes périodes dans les Écritures où on a vu des miracles. On va dire, bah, comme Moïse qui a séparé hein, la mer en deux, hein, des miracles comme bon, avec la veuve à Sarepta, hein, des miracles de résurrection dans l'Ancien Testament. Donc on voit, hein, bon, la première justement de ces périodes, c'est la période de Moïse, hein, de Josué. La deuxième, c'est les ministères d'Élie et d'Élisée. On a vu des choses extraordinaires se produire à travers ces serviteurs de Dieu. Et ensuite, on a cette période donc du Nouveau Testament avec le ministère de Jésus-Christ lui-même et de celui des apôtres. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que voilà, ces trois grandes époques où on a eu ces grandes actions miraculeuses qui se sont produites n'ont pas duré longtemps. Hein, c'est une période d'environ 70 ans hein, pour chacune. Et après cela, bon, on a eu des périodes où rien ne se produisait vraiment. Et au cours ben, de la période du Nouveau Testament elle-même, on voit, et ça je voulais déjà aborder hein, succinctement, qu'il y a cet effacement progressif de ces actes miraculeux. Sur au moins une cinquantaine d'occurrences de mentions ou de mentions de miracles, de prodiges, hein, ou même de parler en langue, même dans le livre des Actes, même dans le livre des Actes lui-même, on constate ce déclin, cette réduction hein, des œuvres miraculeuses. On voit à travers les épîtres elles-mêmes que l'apôtre Paul, lui-même, hein, lui qui avait ressuscité hein, Eutychus d'entre les morts hein, en Actes chapitre 20, ben, l'apôtre Paul lui-même n'a pas été guéri hein, de son écharde dans la chair. Hein, il en parle dans 2 Corinthiens chapitre 12, hein, les versets 7 à 9. Et rappelez-vous aussi, je vais mentionner cela parce que c'est important aussi. 2 Corinthiens, ça a été rédigé en 55-56 après Jésus-Christ. C'est pour vous donner un petit schéma historique hein, de ces événements. On voit non plus que, bon, par exemple, Épaphrodite aussi, qui avait des problèmes de santé, Paul ne l'a pas guéri. Hein, et ça, c'est dans Philippiens, chapitre 2, hein, les versets 25 à 27, où il est question de cela. Et cette épître, bon, elle a été rédigée aux environs de 60-62 après Jésus-Christ. Timothée, pareil, des soucis de santé. Hein, il lui recommande de boire un peu de vin pour ses indispositions. Hein, la première épître à Timothée, rédigée vers 63-65 après Jésus-Christ. Trophime, hein, Paul le laisse malade à Milet. Hein, dans 2 Timothée 4, 20, il est question de cela. Et cette épître, elle, a été rédigée en l'an 67 après Jésus-Christ. Donc on a déjà dans les Écritures, dans la lecture du Nouveau Testament, tous ces indices qui nous montrent que les œuvres miraculeuses, ces dons miraculeux, ont commencé progressivement à disparaître. Et même en regardant Si on prenait bon, les passages qui vont nous lister les différents dons spirituels qui existent. Hein, donc nous avons Romains chapitre 12, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, et puis bon, certains y rajoutent également bon, la première épître de Pierre. Mais si on regarde à ces listes-là, hein, et qu'on les mette dans un ordre chronologique par rapport à la rédaction des épîtres, on se rend compte que bon, l'épître aux Corinthiens, qui est probablement à la liste la plus longue, rédigé en 55 après Jésus-Christ, ensuite l'épître aux Romains en 56 après Jésus-Christ, et déjà là, on a moins de dons qui sont listés. Éphésiens, eh bien là, on a plus que quelques dons hein, vraiment qui sont listés. Hein. Dans Éphésiens 4, il est surtout question hein, des dons que Dieu a fait à l'Église, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, docteurs. 61 après Jésus-Christ, donc, et bon, la première épître de Pierre, hein, 64 après Jésus-Christ. Donc, même là, c'est intéressant de noter que il y a ce déclin, cet effacement progressif. Donc, déjà là, pour la période du Nouveau Testament, on a ben, des évidences qui donnent du poids hein, au fait de croire que voilà, les dons ont fini par cesser et disparaître. Après, nous avons ce qu'on appelle la période post-apostolique, c'est-à-dire la période de l'Église après hein, les apôtres établis par Jésus-Christ. Et là également, dans les traces écrites et historiques que nous avons, on voit là aussi, ben, n'est plus autant question hein, de dons miraculeux. Hein, ce qui concerne par exemple le don hein, de parler diverses langues, ça a disparu de manière progressive hein, dans la période apostolique. Ça va être peut-être que sporadiquement, où on va avoir de petites cellules qui vont réitérer le même problème que l'Église de Corinthe avait. C'est-à-dire que ce n'est pas le don de parler diverses langues qu'ils avaient, c'était cette glossolalie, cette langue inintelligible qui était pratiquée. Et il y a eu dans l'histoire voilà, des petits groupes comme ça qui ont pratiqué cela, mais de manière générale, on va dire que les églises ou ceux qui ont rédigé des œuvres théologiques à cette époque-là n'ont jamais approuvé ces pratiques-là. On a par exemple Clément de Rome, hein, qui lui-même avait écrit justement une épître à l'église de Corinthe hein, en 95 après Jésus-Christ. Lui, il parle même pas de ces problèmes-là avec l'église de Corinthe. Hein. Donc, visiblement, l'église de Corinthe, ça a été quelque chose qui avait été réglé, mais il n'est même plus question d'aborder ce problème du parler en langue. Hein. Et pourtant, bon, Clément de Rome, hein, c'était quelqu'un qui était contemporain des apôtres de Christ. Hein. Justin Martyr, qui lui a vécu au IIe siècle, il a eu l'occasion de visiter de nombreuses églises, il a écrit de nombreux ouvrages, et il ne mentionne rien au sujet du parler en langue. Et pourtant, bon, il a établi hein, de nombreuses listes lui-même hein, des dons spirituels dans ses études. Origène, qui était aussi donc un théologien qui a vécu au IIIe siècle, lui-même non plus ne fait aucune mention hein, des langues, et même il a pris hein, la défense de cette conviction que les dons avaient cessé, qu'ils étaient temporaires, qu'ils étaient quelque chose qui était attaché hein, aux chrétiens du premier siècle, à l'établissement des églises, de l'évangile. Ensuite, on a également Chrysostome qui a vécu de 347 à 407 après Jésus-Christ. Et lui, dans son commentaire sur 1 Corinthiens 12, il déclare justement que les langues et les dons miraculeux non seulement avaient cessé, mais ne pouvaient même pas être définis vraiment avec précision. Donc, ça veut dire que déjà là, hein, on est au IVe siècle et on a déjà plus, ben, qu'est-ce que c'est exactement que ces dons? Si on ne sait plus à ce moment-là, c'est que vraiment, c'était des choses qui n'étaient plus pratiquées. Parce que quand on les pratique, on sait ce que c'est. Hein, dans la période du Nouveau Testament des apôtres, etc., ils savaient exactement quels étaient ces dons. Quelques siècles plus tard, les théologiens, les églises, ben, on ne sait pas définir avec précision ce que sont ces dons. Ensuite, bon, Augustin, qui a commenté sur le livre des Actes, il dit, hein, dans les premiers temps, le Saint-Esprit tomba sur ceux qui croyaient, ils parlaient en langue. C'était des signes adaptés à cette époque, car il fallait qu'il y ait cette annonce du Saint-Esprit. Cette chose a été faite pour témoigner, et elle est décédée. Et même si, bon, il est vrai qu'Augustin, on va dire vers la fin de sa vie, hein, il va peut-être changer de perspective au sujet des miracles, hein, du fait que, bon, il y a encore des miracles qui se produisaient. Au sujet du parler en langue, il dit rien par rapport à cela. En tout cas, moi, j'ai rien trouvé. Ce que l'on constate donc, c'est que dès les premiers siècles, ces théologiens, hein, que beaucoup appellent, hein, les pères de l'Église, parce qu'ils ont écrit tellement d'ouvrages de théologie qui ont posé des fondements, hein, pour beaucoup, beaucoup d'Églises, eh bien, eux-mêmes, hein, quasiment de manière unanime, ont montré que les dons avaient cessé d'exister après l'époque des apôtres. Je vais juste partager cela, parce qu'on est en train de voir l'histoire, et ça fait partie de l'histoire de l'Église, c'est qu'il y a eu, oui, des groupes, hein, qui ont pratiqué, par exemple, le parler en langue, hein, la glossolalie. Au second siècle, hein, il y avait un mouvement qui était dirigé par certains Montanus, et Montanus, voilà, il croyait que la révélation divine se poursuivait à travers lui, au-delà, hein, des écrits, hein, de la Bible. C'est-à-dire qu'il pensait, il croyait vraiment que Dieu se révélait à lui, que par lui, il y avait une nouvelle révélation qui était apportée, hein, à l'Église. Bon, les personnes à son époque, notamment Eusèbe, hein, un historien de l'Église, il a écrit ceci à propos de Montanus. Il dit, dans sa soif d'autorité, il devenait obsédé et tombait soudainement dans la frénésie et les convulsions. Il commença à être extatique, à parler étrangement et à prophétiser contrairement à ce qui était la coutume depuis le début de l'Église. Ceux qui l'entendaient étaient convaincus qu'il était possédé. Ils le réprimandèrent et lui interdirent de parler, se souvenant de l'avertissement du Seigneur Jésus de faire attention, car de faux prophètes viendraient. Donc, même à ces époques-là, il y avait, bah, des chrétiens qui ont observé, analysé, discerné et condamné ces pratiques. Et donc, l'arrêt des dons miraculeux, justement, semble coïncider, hein, avec l'établissement, hein, au IVe siècle aussi, avec le canon, hein, des Écritures, où on voit que une fois qu'on a cette révélation complète de la parole de Dieu, ben là, on a un silence au sujet de ces dons miraculeux. Un silence assez conséquent, hein, parce qu'il va falloir attendre quelque part le 17e, 18e siècle pour avoir de nouveau des groupes qui vont dire, ah ouais, on parle en langue. Hein, il y a le Saint-Esprit qui est venu et qui a permis donc à des chrétiens de pouvoir parler en langue et de faire des choses extraordinaires. Bon, la question déjà, c'est pourquoi un tel silence? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce silence de plusieurs siècles? Alors certains vont par exemple argumenter que puisque l'Église catholique dominait, eh bien l'Église catholique a fait en sorte de taire, a effacé les traces, hein, de ceux qui auraient pu eh bien, pratiquer ces choses-là. Le problème, c'est que je comprends le sens de cette argumentation, mais le problème, c'est que ça n'a pas empêché que, à travers les siècles de domination de l'Église catholique, on a quand même des traces écrites, historiques, de chrétiens qui ont eu des convictions qui étaient basées sur les Écritures et non pas sur les dogmes de l'Église catholique. Et ces éléments-là nous sont parvenus, on les a encore. Bon, pour vous donner un exemple de cela, les églises baptistes. Hein, les églises baptistes, vous avez, on va dire, deux grands points de vue qui divergent sur l'origine des églises baptistes. Okay? Il y a ceux qui vont dire que ben, les églises baptistes sont issues de la réforme protestante et vont mettre donc les baptistes dans le protestantisme. Et il y a ceux qui voient dans les églises baptistes, eh bien, une continuité de l'enseignement biblique à travers les siècles. D'accord? Et je dis pas que voilà, bah, les chrétiens du premier siècle, c'était des baptistes, parce que c'est un terme qui n'est venu que des siècles plus tard. Mais quand on regarde eh bien, aux convictions et aux doctrines fondamentales des églises baptistes, eh bien, on voit une continuité. Je ne dis pas ça parce que voilà, moi je suis par conviction baptiste et que ceci est une église baptiste, mais que d'autres personnes, n'étant même pas dans des églises baptistes, ont dit ceci au sujet des églises baptistes. Par exemple, en 1777, à la demande du roi des Pays-Bas, on a des érudits néerlandais qui vont établir la succession apostolique des baptistes hein, au 19e siècle. Et donc, on a Isaac Dermouth, qui était cet érudit néerlandais. Et la conclusion de leur étude sur les baptistes a été ceci. Nous avons maintenant vu que les baptistes, qui étaient autrefois appelés anabaptistes, et plus tard même mennonites, étaient les vaudois d'origine, hein, les vaudois, c'est le 12e siècle, qui ont longtemps, dans l'histoire de l'Église, reçu l'honneur de cette origine. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, ben, avant la Réforme, ben, déjà, les églises baptistes existaient, et que même parmi les églises issues de la Réforme, ben, les érudits ont constaté que ben, ce qui est appelé comme étant une église baptiste, on retrace l'âge déjà jusqu'au 12e siècle. Donc, bien longtemps avant, hein, la Réforme protestante. On a également hein, le fait que Zwingli, hein, qui était un réformateur suisse, hein, il a dit ceci au sujet des baptistes, il dit « L'institution des anabaptistes n'est pas nouvelle, mais notez bien, mais pendant 1300 ans a causé un grand trouble dans l'Église. » Il parle de l'Église catholique. C'est-à-dire que lui, il va même encore plus loin, hein, il remonte jusqu'à 1300 ans avant hein, sa période à lui, hein, la période de la Réforme protestante, pour dire que les anabaptistes existaient déjà. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire cela pour dire oui, c'est nous la vraie Église, etc. La vraie Église, c'est celle qui reste fidèle aux Écritures. D'accord? Mais c'est pour dire que on a quand même, malgré la domination de l'Église catholique pendant des siècles, des traces écrites, historiques, que, bien, à travers même toute cette domination-là, il y a quand même eu des chrétiens qui n'étaient pas catholiques, des chrétiens qui avaient des positions qui étaient davantage de celles que l'on voit aujourd'hui dans les églises évangéliques et dans les églises baptistes, etc., et qui nous montrent que même si on sait que bon, l'Église catholique a lutté hein, contre tout ce qui était contraire à leur dogme, on sait que, ben, comme Suzanne en a parlé ce matin, que il y a eu des personnes fidèles. Et que Dieu a préservé ces personnes, il a préservé le témoignage de sa parole, il a préservé sa parole. Et donc, si effectivement hein, le témoignage doctrinal hein, des baptistes donc, a su traverser les siècles, malgré les efforts de l'Église catholique pour éradiquer hein, ces doctrines, l'argument de dire que l'Église de Rome, eh bien, a éteint toute trace d'église, de chrétiens qui auraient pratiqué le don des parler en langue et autres, etc., pour moi, n'est pas solide. D'accord? Et c'est pour cette raison que je partage ces choses-là. Mais voilà, en ce qui concerne donc, par exemple, parler en langue, hein, l'histoire nous montre donc qu'il n'a pas été pratiqué dans le christianisme de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Et là, il commence à réapparaître. Et notez bien que ça a apparu dans des groupes assez variés. Par exemple, se parler en langue, elle a été pratiquée hein, chez les jansénistes. Les jansénistes, c'est, on va dire, on peut qualifier ça d'une secte catholique. Hein, c'est quelque chose qui est issu du catholicisme. On a également, hein, parmi différents groupes, il y en a qui connaissent les Quakers, hein, et c'est pas simplement les céréales, hein, mais bon, les Quakers, c'était des chrétiens qui, voilà, il y avait des pratiques assez surprenantes, qui croyaient que, voilà, quand ils étaient vraiment remplis du Saint-Esprit, ben, leur corps hein, se secouait, d'où le nom de Quakers, hein, de Shakers. Et donc, c'est un mouvement donc, qui avait été fondé en Angleterre en 1747 et ensuite hein, s'est exporté aux États-Unis. Mais voilà, ce que l'on constate vraiment, c'est que pendant près de 1800 ans, ben, cette fameuse glossolalie, hein, ce qu'on appelle certains aujourd'hui donc le don des langues, ainsi que d'autres dons miraculeux, étaient inconnus hein, dans la vie, dans la doctrine hein, du christianisme, hein, qui était le plus rapproché, on va dire, des Écritures que ce qui dominait à l'époque. Ensuite, bon, ces influences-là ont pris vraiment de l'ampleur à partir du XXe siècle. À partir du XXe siècle, on a eu hein, des mouvements qui se sont développés, notamment bon, le mouvement de sainteté, qui a repris un certain intérêt et engouement pour les dons miraculeux. Et la raison hein, pour ce regain, c'est que ils croyaient qu'il y avait ce qu'ils appellent une seconde œuvre de grâce, une seconde bénédiction ou un second, si vous voulez, baptême de l'Esprit Saint. Et pour eux, ça consistait donc pardon, une expérience personnelle qui était après la régénération, dans laquelle le croyant, alors, il était complètement purifié du péché originel. Et il croyait donc par cela que une personne pouvait arriver à un stade où il ne péchait plus. Et donc, dans cette ligne de pensée, d'abord, une personne est sauvée. Après quoi, elle est justifiée, née de nouveau, et ensuite, donc, elle connaît cette période de croissance, et cela va se culminer par cette deuxième œuvre de grâce, hein, où le cœur est entièrement purifié, qui éradique donc tout péché inné, tout péché originel. Et là, le Saint-Esprit donc communique sa présence intérieure, hein, renforçant le croyant. Hein, c'est ce baptême du Saint-Esprit qu'ils appellent, qui se produit instantanément lorsque le croyant se présente comme vraiment un sacrifice vivant, lorsqu'il se donne entièrement à Dieu. On a John Wesley aux États-Unis hein, qui a formulé cette doctrine. Hein, il a enseigné que ceux qui avaient été entièrement sanctifiés, donc seraient parfaits dans l'amour, s'engageant dans des œuvres de piété et des œuvres de miséricorde, qui sont toutes deux caractéristiques de la croissance en grâce d'un croyant. Donc à partir de cela, on va avoir donc ce regain, cet engouement pour tout ce qui est à caractère miraculeux dans diverses églises. Hein, le mouvement des églises pentecôtistes hein, sont très attachés également, tout comme nous, à l'autorité biblique, mais également donc aux dons spirituels hein, et aux miracles, et considèrent leur mouvement comme reflétant vraiment le même type de puissance spirituelle qui existait au Nouveau Testament, donc à l'époque de la période du Livre des Actes, par exemple. Et donc, pour eux, le fait de pouvoir parler en langue, donc là, cette glossolalie, était donc la preuve eh bien, de cette seconde bénédiction, de ce baptême du Saint-Esprit. Quelques années plus tard, on a Charles Parham, donc ben, dans 1900 et quelques, hein, qui était vraiment le premier à souligner hein, et à montrer pour eux l'importance de cela, que le parler en langue, ça voulait dire qu'on était baptisé du Saint-Esprit, qu'on était vraiment sauvé. Et donc les églises pentecôtistes, elles sont issues hein, de ce mouvement-là. 1906, on a dans une église à Los Angeles, c'est pour ceux qui connaissent, hein, à Azusa Street à Los Angeles, il y a eu cette rencontre où, effectivement, il y a eu ce parler en langue, et à partir de ce moment-là, ça a donné une grande impulsion hein, aux églises pentecôtistes à travers les États-Unis. Alors, quand on regarde à l'histoire, donc je rappelle, on a une période où progressivement les dons miraculeux cessent. On a une très 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 longue période, plusieurs siècles, où on n'en parle même plus. Et ça refait un petit peu surface. Et finalement, début du XXe siècle, c'est là où il y a une grande explosion hein, dans ce mouvement-là. Et au début des années 60, on a des églises pentecôtistes où il y a un mouvement qui s'appelle donc le mouvement charismatique, qui va prendre également de l'ampleur. Alors, au début des années 60, dans les églises anglicanes aux États-Unis, on a ce mouvement qui se met en route. Et on voit dans des églises de confession protestante, chez les luthériens, chez les presbytériens, chez les méthodistes, et même dans le catholicisme romain, eh bien, des personnes qui vont commencer à donc pratiquer la glossolalie. Et donc, c'est intéressant de noter ces choses-là, hein, de voir que ce n'est pas un mouvement qui est simplement lié même à des églises évangéliques, mais de voir que même dans l'église catholique, il y a des groupes qui pratiquent le parler en langue. Hein, et ça, j'en ai déjà parlé. Mais voilà, c'est quelque chose qui vraiment touche un différent courant, hein, si vous voulez, hein, du christianisme. Donc en survolant hein, cette histoire de l'Église, on comprend que les dons miraculeux, bon, ils ont eu un impact important dans la propagation de l'Évangile, dans l'implantation des Églises au 1er siècle, mais la réalité de ces dons, hein, elle a été limitée à cette période-là. On voit cet effacement progressif, on voit hein, cette redécouverte à partir du XVIIe, XVIIIe siècle et ce grand boom au début du XXe siècle, et qui nous amène, en tout cas pour moi, à avoir un regard, on va dire, plus analytique sur ces mouvements qui pratiquent hein, le parler en langue. Et la question qu'il nous faut voir également, c'est qu'il y a un autre, pour moi, argument qui est important de noter, c'est l'aspect du danger que ça peut revêtir, du danger spirituel. L'enjeu spirituel en question ici, pour nous, c'est déjà ben, d'être sûr d'être dans la vérité et de faire ce que le Seigneur nous demande de faire avec ce que le Seigneur nous a accordé, n'est-ce pas? Et toute la question du débat là-dessus, c'est vraiment hein, de savoir, de déterminer hein, si c'est une erreur doctrinale ou si c'est quelque chose que eh bien, les chrétiens doivent continuer de pratiquer. Sachant que la parole de Dieu nous avertit qu'il y a des faux prophètes, qu'il y a des faux docteurs, des personnes qui étaient là, qui prétendaient être chrétienne, mais qui enseignait des choses qui détournaient finalement les croyants, qui détournaient les églises de leur véritable mission. Mais rappelez-vous, je vais juste relire ce que le Seigneur Jésus a dit, Matthieu 24. Matthieu 24, verset 11, il dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Plus loin, verset 24, il dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Et c'est là où on doit faire attention. C'est-à-dire que les faux enseignements peuvent affecter ceux qui sont vraiment sauvés et les détourner de la vérité. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention, être prudent, être vigilant et analyser, étudier ces choses-là. Je crois que, personnellement, ça devrait être une règle pour tout le monde. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de pratiquer quelque chose pour savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. N'est-ce pas? On n'a pas besoin d'essayer les drogues pour savoir que c'est mauvais. Ok? On n'a pas besoin non plus de... on va dire, d'essayer de pousser nos limites, par exemple, par rapport à l'alcool, pour voir ben, quand est-ce que je tombe dans le péché quand je suis ivre, mais quand est-ce que je vais vraiment être ivre? Donc je vais voir jusqu'où je peux aller. Mais le risque, c'est de dépasser la limite, et finalement de pécher. Vous voyez, le principe, il est là. C'est la prudence. C'est de voir les choses, d'analyser les choses, de les étudier, et de s'assurer, est-ce que ceci est la volonté de Dieu pour nous, ou non? Alors, en quoi tous ces dons miraculeux seraient-ils un danger aujourd'hui pour les chrétiens? Mais déjà dans l'Ancien Testament, on apprend que tout prodige ou miracle ne vient pas forcément de Dieu. On a cette association que l'on fait que don de miracle, de prodige, ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, on sait que les magiciens de Pharaon, par exemple, étaient capables d'accomplir des choses extraordinaires face à ce que Moïse hein, faisait. Quand le Seigneur Jésus hein, nous avertit en Matthieu 24 qu'il va y avoir des faux prophètes, est-ce que ça vous a interpellé que Jésus dit, ils feront de grands prodiges et des miracles. Des grands prodiges et des miracles. Donc il faut bien comprendre une chose ici, c'est que les actes miraculeux ne sont pas forcément le signe absolu d'appartenance à Dieu. Ni même la preuve du baptême de l'Esprit ou d'une seconde bénédiction de l'Esprit. Il y a un passage sur lequel j'ai prêché au camp cet été, dans Matthieu 7, et c'est un verset qui, bon, si on ne comprend pas hein, ce que Christ il est en train de parler ici, ça peut interpeller, ça peut faire peur à beaucoup de chrétiens. Hein, Matthieu 7, 27 nous dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, donc ils reconnaissent Christ comme Seigneur déjà. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Donc ils ont quand même accompli des choses qui, techniquement, sont bonnes, comme prophétiser. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Donc là aussi, accomplir des choses assez extraordinaires. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Hein, ce passage de l'évangile de Matthieu, hein, comme je dis, est probablement assez terrifiant hein, quand on lit cela, parce que au verset 23, le Seigneur leur répond, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc on comprend que voilà, c'est des personnes finalement qui, elles, n'étaient pas sauvées, parce qu'elles continuent de pratiquer l'iniquité. Et c'est ça qui nous empêche d'entrer dans la présence du Seigneur en tant qu'être humain, c'est notre péché, et notre péché qui n'a pas été confessé, hein, ou on est une personne qui ne s'est pas repentie. Et donc là, on a un exemple de personnes, de groupes de personnes qui ont fait ce qu'on va considérer comme des bonnes choses. Ils reconnaissent Christ comme Seigneur, ils prophétisent, ils accomplissent des miracles, hein, ils chassent les démons. Et pourtant, Christ leur dit, je ne vous connais pas. Alors je ne dis pas ça pour fustiger. Hein, les frères et sœurs en Christ qui pratiquent hein, ces choses comme le parler en langue en disant qu'ils ne sont pas sauvés, mais ça m'amène à un grand questionnement. Et un grand questionnement qui m'amène à être extrêmement prudent par rapport à tout ceci. C'est de s'assurer par quelle puissance ces choses sont accomplies. Dans le livre des Actes, nous avons également Simon, hein, Simon le magicien, qui accomplissait des prodiges, n'est-ce pas? Il les accomplissait avant sa conversion. Si bien que le livre des Actes, au chapitre 8 et versets 9 à 10, nous dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, écoutez bien, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. C'est-à-dire que face à ces choses extraordinaires, pour beaucoup, c'est impossible de faire la différence. Pour eux, cet homme qui n'était pas chrétien, qui n'avait pas accepté le Seigneur, qui n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit, cette personne-là accomplissait des choses tellement miraculeuses que pour eux, ça vient de Dieu. C'est pour ça que nous devons être vigilants et voir ces choses avec beaucoup de prudence, donc. Paul nous avertit en 2 Thessaloniciens 2,9 que la venue à venir hein, de l'impie hein, sera accompagnée justement par des actes prodigieux. Il nous dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec, notez bien encore une fois, toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc la plus grande prudence doit être employée avant de pouvoir qualifier ce que nous pouvons voir aujourd'hui comme des miracles venant de Dieu. Parce que même des personnes qui se disaient être chrétienne, hein, Matthieu 24, accomplissait des choses extraordinaires, et on aurait tous dit, ben voilà, ça vient de Dieu. Ce sont des chrétiens, n'est-ce pas? Ils appellent Christ Seigneur. Et pourtant, on n'aurait pas été capable de dire que, effectivement, ça vient pas de Dieu. Ou avec Simon le magicien, hein, des choses extraordinaires qui étaient accomplies, et les gens disaient, mais ça vient de Dieu. Ou même là, on sait que plus tard, et là, c'est par la puissance de Satan que des miracles, des prodiges, des signes vont être accomplis. N'oublions pas que, avec l'adversaire, nous avons affaire au père du mensonge, n'est-ce pas? À celui qui est maître de la confusion, d'une extrême intelligence, sournois, pernicieux. Et moi, je suis convaincu qu'il est tellement ces choses-là qu'il a réussi à corrompre, eh bien, les bonnes choses de la parole de Dieu pour détourner les gens de la parole de Dieu. Les fondements même, hein, de l'amour, hein, de la grâce, du pardon, de la miséricorde, aujourd'hui, hein, ils ont été complètement corrompus. Hein, on dit que bah, par amour, hein, il ne faut pas condamner les personnes, il ne faut pas leur parler de leurs mauvaises pratiques ou quoi que ce soit, il ne faut même pas dire que c'est des choses mauvaises qu'ils pratiquent. Mais il a réussi à prendre la bonne chose qui est l'amour et corrompre cela pour détourner les gens de la vérité au sujet de l'amour. Mais grâce à Dieu, hein, grâce soit rendue à Dieu, parce qu'il nous donne, quand même des choses importantes pour faire la part des choses. Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, vous connaissez ce passage, hein, qui parle de l'armure, hein, que Dieu donne aux croyants. Mais il dit, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous, hein, de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et à cause de cela, il dit, c'est pourquoi revêtez-vous, hein, reprenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et je crois que pour nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, on doit constamment poursuivre la vérité et proclamer la vérité. Ayez la vérité, hein, pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ça, je développerai ça dans une autre prédication, justement sur les suffisances que nous avons en tant que chrétiens. Mais ce qui va nous aider, justement, encore une fois, ici, à faire la part des choses, c'est quoi? C'est la parole de la vérité. C'est on va, à travers la parole de Dieu, eh bien, développer du discernement pour vraiment déterminer ce qui est de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Maintenant, on regarde tout ce que l'on a vu. Déjà, on a des arguments scripturaires qui nous montrent que les dons cessent. L'argument historique, hein, où on voit qu'à partir du moment où la parole de Dieu écrite a été complétée, il y a une grande période de silence au sujet de tout ce qui a été miraculeux, du parler en langue, glossolalie, etc. Et c'est réapparu juste là, 17e, 18e siècle, pris de l'ampleur au 20e siècle. Aujourd'hui, hein, c'est à travers le monde, hein, plus de 600 millions de personnes qui pratiquent, hein, les doctrines des églises pentecôtistes charismatiques. La parole de la vérité. Jean 10 à 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Alors notez que dans le passage d'Éphésiens, on voit bien la part, le rôle, la responsabilité de l'Esprit Saint dans l'armure du chrétien, dans ce combat spirituel. Hein, il dit même, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Hein, les prières et les supplications sont essentielles à une vie spirituelle qui est efficace, qui est victorieuse, mais que parmi ce qui nous est donné pour nous défendre, je cherche, je regarde, est-ce qu'il y a un don spirituel quelconque? Ce qui est vraiment, vraiment mis, on va dire, en point focal ici, c'est quoi? Ayez la vérité pour ceinture, la vérité, la parole de Dieu. Le zèle, l'évangile, qui est la parole de Dieu. Prenez le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et je crois que ce qui est fondamental pour nous chrétiens, c'est de bien nous ancrer dans la parole de Dieu. Parce que ce qui nous aide même dans notre vie chrétienne, on sait que l'Esprit Saint, il nous aide, etc. Il nous console, il nous instruit. Mais la parole de Dieu, elle est essentielle. Si on néglige la parole de Dieu pour dire on va voilà, vivre ce que l'Esprit Saint nous dicte, mais sans nous attacher à la parole de Dieu, on a de grands risques d'être détournés dans ce qui n'est pas la vérité. Alors parmi les dangers qu'on va citer peut-être succinctement ce matin parce que le temps a déjà passé, mais le danger c'est cela, c'est que on met si peu d'importance pour beaucoup de chrétiens sur la parole de Dieu et la parole de Dieu elle-même. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous présente la vérité. C'est la parole de Dieu qui va nous montrer qui nous sommes et ce que nous devons faire. Et c'est la parole qui transcende, qui instruit, et qui protège, qui fortifie notre foi. Mais le danger, par exemple, avec le parler en langue de cette glossolalie, c'est que, déjà, c'était un problème dans l'église de Corinthe, où les gens utilisaient ça pour se glorifier, pour se montrer comme quelqu'un. Et Paul les a réprimandés par rapport à cela. Dieu, ensuite, on le sait, se révèle de manière compréhensible. C'est-à-dire que quand il a révélé sa parole à ceux qui nous ont composé ces divers écrits que nous avons dans la Bible, il ne leur a pas parlé dans une langue inintelligible, sinon ça ne sert à rien. Dieu veut communiquer, il a communiqué dans la langue de Moïse, il a communiqué dans la langue de Paul, et ainsi de suite, d'accord? Mais Dieu se révèle de manière compréhensible. C'est logique. Ça serait terrible que Dieu nous communique des choses et on ne les comprenne pas, on ne saurait plus quoi faire, on ne saurait pas ce que Dieu attend de nous. Mais Dieu communique de manière compréhensible, intelligible. Le danger spirituel pour le chrétien, finalement, aussi, c'est de poursuivre quelque chose qui, peut-être, ne viendrait pas de Dieu. Tout comme pour les miracles, les prodiges, on doit veiller à être dans le vrai, dans la vérité, de fuir ce qui est mauvais. Et c'est pour ça que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 22, « N'éteignez pas l'esprit. Okay » Ce que je suis en train de dire, c'est, je ne suis pas en train de dire, non, il faut abandonner tous les dons spirituels, n'écoutez pas le Saint. Non, au contraire. Écoutez, lisez la parole de Dieu, laissez-vous diriger par l'Esprit Saint. Mais il dit, n'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Examinez toutes choses. Et c'est ce que nous devons constamment faire. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir examiner les choses sans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui va nous amener à comprendre et à discerner que telle chose, non, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, si on ne s'attache pas à la parole de Dieu et si on ne lui donne pas l'autorité que Dieu lui a accordée? On a vu que les signes, les prodiges, les miracles, ces choses ont été des signes pour les personnes à l'époque du Nouveau Testament, des signes aussi de jugement pour le peuple d'Israël. Mais si même tous les chrétiens devaient parler un langage incompréhensible, ce n'est pas ça qui va les caractériser comme étant vraiment des chrétiens, n'est-ce pas? Bon, déjà, ce que Christ il a dit, c'est « Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Mais si on dit que le fait de parler la glossolalie, là, c'est ça qui nous montre que nous sommes réellement chrétiens, baptisés du Saint-Esprit, etc., sachez ceci. On retrouve ce phénomène dans diverses religions du monde. On retrouve notamment chez des prêtres bouddhistes, dans l'occultisme. On retrouve cela même chez les derviches musulmans, chez les Zoulous, des indigènes de Bornéo, des médiums spirites, des personnes possédées également, et même des personnes atteintes de troubles mentaux. OK? Même dans des centres de psychiatrie, vous avez des personnes qui parlent de manière inintelligible. OK? Si je devais prendre ce fameux parler en langue glossolalie pour dire voilà la preuve que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est pas ça qui nous distingue finalement de ces autres personnes qui, elles, sont sans Christ. Peut-être seriez-vous d'accord avec moi de penser que si le don, hein, de parler dans cette langue surnaturelle venait de l'Esprit de Dieu, cette capacité serait vraiment restreinte à des personnes chrétiennes et même serait, on va dire, immédiate, n'est-ce pas? J'ai vu des vidéos sur Internet de pasteurs charismatiques qui donnaient des instructions, des conseils pour apprendre à parler en langue. Je me dis, si c'est un don de l'esprit, on ne peut pas l'acquérir en l'apprenant, n'est-ce pas? Si c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit, c'est immédiat. Or, un qui disait, donc, laissez aller votre langage, dites n'importe quoi, prononcez les syllabes qui vous viennent à l'esprit, répétez-les, et il dit, débranchez votre intelligence. Et alors là, pour moi, c'était un grand panneau attention. Quand on me dit, débranche ton intelligence, je suis désolé, Dieu m'a donné de l'intelligence. Il a donné de l'intelligence à chacun. Et il veut qu'on réfléchisse, qu'on utilise cela. Un autre qui dit, je vais vous dire quelques mots, vous les répéterez, hein, vous les mélangerez aussi, mais ne vous inquiétez pas, continuez à les répéter plusieurs dizaines de fois, et bientôt vous parlerez en langue. Alors, je sais bien que ces personnes-là ne caractérisent pas l'ensemble, hein, des charismatiques pentecôtistes. Mais c'est troublant. C'est troublant. Parce qu'avec cela, on a d'autres dangers, comme le danger d'un christianisme élitiste, comme c'était le cas donc à Corinthe. Hein, moi, je sais faire ça et toi, non. On a le danger même d'un christianisme despotique, hein, parce que à partir du moment où on est dans cette élite, eh bien, on a tendance à diriger les autres qui sont des moins bons chrétiens. Hein, et on a vu, hein, on a pu constater ça dans certaines assemblées. Hein, parce que voilà, moi, j'ai l'autorité apostolique. Je suis un apôtre, donc maintenant tu fais ce que je te dis. Ici, dans notre assemblée, on va prendre la parole de Dieu et on va dire, voici ce que la parole de Dieu dit. Et une chose est certaine, c'est que je ne vais pas forcément courir après chacun pour vous dire, faut que tu changes, tu vas m'obéir. Non. Moi, en tant que pasteur, la seule autorité qui existe, c'est que Dieu a donné à l'Église. Hein, les pasteurs comme des ministres, des serviteurs pour l'assemblée, mais qu'il a cette responsabilité de prêcher, proclamer, présenter ce que la parole de Dieu dit. Et la responsabilité de l'Église, comme celle de Béret, c'est de vérifier à travers la parole de Dieu que tout ce qui a été enseigné soit exact. Ça, déjà, ça évite l'erreur doctrinale. Ça évite aussi des situations despotiques, comme ça a déjà été le cas. Et finalement, bon, il y a toujours, oui, hein, ce danger de l'hérésie doctrinale. Parce qu'à travers ces mouvements, hein, sont nées certaines sectes qui sont dans l'hérésie, hein, doctrinale. C'est toi qui as parlé ce matin de l'Église unitarienne, n'est-ce pas? Voilà. L'Église unitarienne nie la Trinité. C'est un mouvement issu, hein, des églises pentecôtistes. L'Évangile de la prospérité, issu également, hein, de ces mêmes mouvements, hein, qui affirme que Dieu veut que son peuple soit en bonne santé, soit riche et prospère constamment, hein, et que ça encore, c'est un signe que voilà, vous êtes des bons chrétiens parce que vous avez toutes ces choses-là. Puisque déjà, moi, je ne suis pas débranché de mon intelligence, ma réaction première, c'est bon, et alors, toutes ces personnes qui sont milliardaires, millionnaires, parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont triché, hein, parce qu'ils sont corrompus, etc., leur richesse, est-ce que ça, c'est un signe que ce sont des bons chrétiens? On a vu dans l'Écriture elle-même des personnes comme Paul et d'autres, être en mauvaise santé. Est-ce que ça faisait d'eux de mauvais chrétiens? Donc, il y a beaucoup, hein, de problèmes, hein, qui sont issus, hein, ces différentes hérésies et groupes hein, qui sont issus de ces mouvements pentecôtistes charismatiques. Et si certains, même responsables aujourd'hui hein, d'églises pentecôtistes charismatiques, dénoncent ces mouvements-là, on ne peut pas nier l'impact que ça a eu dans la vie de beaucoup de personnes, les détournant justement de la vérité. Et je dirais même les détruisant spirituellement. Ce que devrait se demander un chrétien aujourd'hui, c'est finalement d'où vient cette nécessité, cette poursuite du miraculeux, de l'extraordinaire, cette fascination pour ces dons, et pourquoi sont-ils si importants aux yeux de certains chrétiens? Et c'est pour ça que, Dieu voulant, hein, la prochaine fois, j'aimerais, qu'on abordera la question de l'Église, j'aimerais aborder justement cette question des suffisances que nous possédons. Nous possédons déjà par la grâce de Dieu. Mais je suis reconnaissant pour la parole de Dieu,